L'après-midi va être présidé par Michel Sénelard, professeur à l'École normale supérieure de Lyon, éditeur de plusieurs cours de Foucault, sécurité, territoire, population, naissance de la biopolitique. Et donc, je tourne à vous.
Merci. Donc, Lauria Israël, qui est maîtresse de conférence ici même, directrice adjointe du centre Maurice Alvax, sociologue du droit et de la justice, et elle a notamment travaillé sur les mobilisations politiques du droit au XXe siècle, l'information juridique, et elle s'intéresse actuellement au traitement judiciaire des discriminations. Voilà, je vous donne donc la parole.
Merci. Alors, merci de ces précisions un peu superflues, mais qui permettent de dire à quel point je pense les deux phrases que Bernard nous a interdit de prononcer ce matin. Même si je remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à ces échanges, notamment parce que ces échanges sont d'une grande richesse et ils permettent aussi de mesurer, je crois, toute la chance que nous avons à l'EHSS d'accueillir Bernard parmi nous depuis cette année. Et je crois que nous sommes très nombreux à nous en réjouir. La situation du cours qu'il a rédigé dit d'ailleurs très bien aussi quelques petites choses que j'aurais peut-être pu dire depuis les sciences sociales, hein, ce qui nous fait un déplacement par rapport à l'intervention précédente sur la couleur marxiste du cours qui a été souligné ce matin par cette insistance sur les circuits économiques avec, je crois, vraiment les références physiocratiques qui sont assez présentes, ou encore, ce dont nous a parlé Michael, sur la référence au texte de Marx sur le vol de bois qui est d'autant plus intéressante du point de vue un peu déplacé qui est le mien, qui est celui de la sociologie du droit, que ce texte a été traduit et édité en français en 84 par Pierre Lascoum et Zander, je ne sais pas son prénom. Voilà, ce qui a été très important pour la sociologie du droit qui se recrée à cette époque du milieu des années 80. Et j'ai fait un petit échange de mail avec Pierre hier soir pour vérifier, et il m'a bien dit qu'effectivement, c'est la manière dont il était influencé par Foucault et sa réflexion sur les inégalismes qui lui a fait prendre conscience en lisant à l'époque avec Zander la traduction chez Molitor qui existait de ce texte, qu'il était nécessaire de la reprendre et de la rééditer. Donc on voit bien là aussi une filiation et une manière de relier ce texte et ses réflexions à la sociologie du droit, corde que je vais essayer de tirer, même si je suis sans doute d'ailleurs moins qualifiée que d'autres ici pour le faire. Donc la lecture depuis la sociologie du droit est d'autant moins évidente que finalement, à part peut-être Pierre Lascoum et les travaux qu'il a fait avec la réponse là, la sociologie du droit a eu du mal jusqu'à une période récente, je vais revenir, à se saisir de Foucault, notamment dans les travaux du type Law and Society qui est le versant américain. Il y a eu cette thèse dès la fin des années 60 de l'oubli du droit ou de l'expulsion du droit chez Foucault, c'est-à-dire une réflexion des penseurs soit de la critique du droit soit de Law and Society en disant voilà, Foucault est ce penseur important de la prison et il n'a pas eu véritablement de discours sur le droit et c'est une lacune ou un problème. Donc ça c'est une critique qu'on retrouve aussi bien chez Duncan Kennedy à l'époque, chez Buaventura de Sousa Santos, chez Alan Hunt ou Gary Wickman qui vont faire un livre justement sur cette question de la place du droit chez Foucault, plutôt en critiquant le fait qu'il n'y aurait pas prêté suffisamment attention. Et donc, il n'aurait pas prêté assez attention. Et puis, la critique que tu soulignais ce matin, c'est-à-dire il y aurait une approche trop répressive, uniquement répressive du droit, une focalisation sur le droit pénal qui ne permettrait pas de prendre en compte les autres dimensions, et notamment parce qu'on a une période d'effervescence politique aussi, je vais y revenir, la manière dont le droit peut aussi servir d'appui pour ceux justement qui sont réprimés, peut être retourné, peut être l'objet de tactiques et c'est une dimension dont ils vont justement regretter l'absence en quelque sorte chez Foucault et le petit exercice auquel je vais me livrer ici c'est essayer de montrer que ça apparaît un peu chez Foucault quand même. En passant juste pour faire la discipline là où il faut être indiscipliné, sur la sociologie il y a quelques usages du terme sociologie dans le texte de la société punitive. C'est plutôt une réduction de la sociologie à une sociologie de la criminalité, c'est-à-dire à une dimension de la criminologie. Et en ce sens-là, il me semble que c'est un petit peu réducteur. L'autre point, c'est la sociologie durkheimienne, qui est là présentée dans une version assez fonctionnaliste. Donc on a à la fois l'évocation un peu hybride de la sociologie, à la fois comme discipline critiquée et puis comme discipline par rapport à laquelle il se situe plus analytiquement. Mais c'est quand même cette approche criminologique fonctionnaliste de la socio qui est présente, alors même qu'au-delà de Goffman, qu'on cite toujours comme contrepoint, il y a effectivement dans ce texte, je pense, comme le disait Étienne Balibar et Bernard aussi dans le texte, effectivement une dimension weberienne un peu actionnaliste que l'on peut trouver, mais aussi sans doute il faudrait relier ce texte à des traditions d'analyse nord-américaine que Foucault a dû croiser dans les années 80, hein, celle de l'interactionnisme symbolique sur les questions de déviance, hein, et pas seulement sur Basile comme chez Goffman, ou dans l'ethnométhodologie, qui ont critiqué la naturalité de la description de comportements comme déviants pour montrer au cœur de leur production même le fonctionnement des institutions chargées du contrôle de la déviance. Hein, comment on labellisait des personnes, quelles étaient les formes de travail par lesquelles se faisaient les labellisations, et tout cet agencement-là est aussi d'une certaine manière peut-être plus proche de Foucault qu'une manifeste de proximité avec la sociologie. Alors, au-delà de ce point, pour revenir à cette critique de, encore une fois, avec beaucoup de guillemets, de l'oubli du droit chez Foucault dans la sociologie du droit, il y a eu un double dépassement, je crois, de cette critique qui date de la fin des années 70, début des années 80. Le premier dépassement évident et qui concerne évidemment d'autres champs d'analyse, c'est l'ajout des textes qui vont être connus ultérieurement, et en particulier les cours du Collège de France, les cours sur la gouvernementalité par exemple, ont permis de développer très largement la thématique du droit comme mode de gouvernement, qui va profondément renouveler les approches de sociologie, de sciences politiques, de politique publique notamment. Et puis il y a une autre influence qui est aussi une particularité des formes de globalisation des sciences sociales, c'est que parce que Foucault a aussi été lu beaucoup par les sciences sociales dans le monde entier, il est revenu peut-être par les auteurs américains, notamment avec des approches plus libres peut-être du rapport au texte foucauldien vers les sciences sociales françaises, qui ont peut-être aussi du coup pu se ressaisir de concepts qui pouvaient apparaître peut-être trop philosophiques au départ pour la sociologie française. La troisième dimension, le dépassement, c'est aussi des vraies passerelles entre droit et sociologie, comme Robert Castel, qu'on ne peut pas ne pas mentionner ici, mais Castel, c'est plus justement sur les travaux sur la psychiatrie que sur le droit que s'est fait ce passage. Alors, par rapport à ce double critique et à cette double réponse, je vais choisir de partir vraiment d'une lecture de ce texte en me focalisant sur très peu de choses, puisque c'est les peu de choses sur lesquelles je suis compétente, le rapport qui peut transparaître dans une remarque, enfin dans un tout petit passage de Foucault dans la société punitive, aux mobilisations du droit qui lui sont contemporaines. Donc un peu comme tout à l'heure, il y a eu cette remarque sur, que j'avais noté aussi sur sa réaction par rapport au débat sur l'avortement, il y a aussi une réaction par rapport à ce qui lui est immédiatement contemporain, c'est-à-dire le syndicat de la magistrature qui en est à ses toutes jeunes années puisqu'il a été créé en 68. Alors je vais partir de cette phrase que je vais vous citer. Donc il montre comment le système pénal et la criminologie ne s'opposent pas, mais vont vraiment de pair dans la période contemporaine. Je cite, il n'y a donc pas à attendre une refonte du système pénal à partir du discours criminologique. Bien au contraire, le vrai dysfonctionnement de ce système, on l'introduit, comme tente de le faire le syndicat de la magistrature, en supprimant le codage criminologique et en appliquant la loi dans son universalité, son inévitabilité, c'est-à-dire en faisant fonctionner le système pénal sur le modèle beccarien, sans cette espèce de corrélatif correctif que sont la moralisation et la criminologie. Il nous est précisé que dans le manuscrit, Foucault aurait noté, aussi paradoxal que ce soit, c'est l'application stricte du code qui est plus subversive que la correction par la criminologie. Et ça, c'est magnifique, c'est très important, je pense, parce que j'ai dit du droit, et pour l'analyse des mobilisations politiques du droit. Alors la petite limite peut-être de cette phrase de Foucault, c'est qu'il parle du code avec un grand C, c'est-à-dire du code pénal, et que c'est quelque chose qu'on peut sans doute très largement étendre au droit de manière plus générale à l'époque. Les trois points qui sont intéressants, je trouve, dans cette citation, c'est qu'il insiste sur la dimension subversive, intrinsèquement subversive du syndicat de la magistrature, qui, alors, lorsqu'il dit qu'il veut introduire un véritable dysfonctionnement dans le droit, il va sans doute trop loin par rapport à la volonté des membres du syndicat à l'époque, c'est pas exactement comme ça qu'il pose le problème, mais néanmoins, c'est effectivement en demandant l'application du droit, et rien que l'application du droit, qu'ils vont être les plus forts politiquement, notamment, c'était ce qui était signalé ce matin, en disant qu'il faut que la loi s'applique, y compris aux puissants, y compris aux chefs d'entreprise, y compris aux criminels en col blanc, etc. Et donc toute cette ligne est extrêmement importante. deuxième point, cette idée que faire dysfonctionner le système, c'est justement jouer la loi contre l'ordre, hein, pour reprendre ce qu'a dit Rainer et ce que je vais reprendre, c'est effectivement une idée, hein, ce jeu sur la technique et sur la mise en œuvre littérale du droit qui va être très puissante dans le renouveau, ou dans la nouveauté des usages militants du droit dans les années 70. Le droit était jusqu'ici vu comme l'arme de la bourgeoisie, hein, comme le domaine de la bourgeoisie, comme ce qui permettait le maintien du statu quo, comme une superstructure au sens althusserien dont on a parlé ce matin. Et certaines organisations qui se créent exactement à cette époque-là, le syndicat de la magistrature, mais aussi le syndicat des avocats de France, le GISTI, d'autres, le MAJ, hein, mouvement d'action judiciaire, qui se crée exactement à la même période avec beaucoup d'acteurs communs, comme le Louis Joinet notamment, je vais y revenir, vont justement mettre la technique du droit et son apparente neutralité au service de la subversion de l'appareil judiciaire et du droit pour obtenir des luttes politiques, notamment contre l'État, en utilisant son langage et en retournant en quelque sorte ses armes. Donc ça permet de souligner ce passage, les liens de Foucault avec les mouvements protestataires de l'époque, le GIP qu'il a contribué à fonder, mais aussi la revue Actes, sous-titrée Cahier d'action juridique, une revue qui commence à paraître exactement à cette période, le premier numéro date de 73-74. Il y a beaucoup de liens, le GIP est créé avec le frère de Bertrand Domnach qui crée la revue Actes. Cet avocat, Bertrand Domnach, est aussi l'avocat de Foucault dans certaines affaires qui ont lié à sa famille via Kiegemann, qui est son patron, hein, donc tout ça, Foucault intervient dès 73, je crois, dans une table ronde qui sera publiée en 74 par la revue Actes sur l'expertise judiciaire. Donc on est dans une nébuleuse dans laquelle Foucault est présente. Il est aussi présent auprès du syndicat de la magistrature, notamment à Goutelas, qui est ce lieu dans le Forez qui a été réhabilité par les militants qui s'y rencontrent et dans lequel tous ces groupes dont je viens de parler se retrouvent régulièrement. Il est invité à deux reprises par syndicat de la magistrature. Je cite notamment un texte de Louis Joinet dans Vacarme dans lequel il revient sur les textes, sur les positions que Foucault expose en dialogue avec le syndicat de la magistrature et où il développe notamment, alors ça c'est une intervention en 77, la notion de l'extension du judiciable, hein, comme caractérisant la société contemporaine. Et là je crois qu'on a aussi une notion qui fait penser par rapport à ce qui se... à notre actualité immédiate. Alors un positionnement de discussion relativement critique par rapport au syndicat de la magistrature, mais qui est présent tout au long des années 70 et qu'on retrouve, je vais citer le même texte que Rainer, mais pas exactement pour les mêmes raisons, dans Le citron et le lait, qui est donc en fait une critique que publie Foucault dans Le Monde du 21-22 octobre 78. C'est une critique d'un livre qui s'appelle Le ghetto judiciaire, et qui est le livre de Boucher, qui est à l'époque le chroniqueur du Monde sur les questions de justice, mais qui n'est pas du tout un chroniqueur judiciaire, c'est ce que souligne Foucault, et qui est pour moi une source, puisque c'est lui qui a fait beaucoup d'articles sur, par exemple, le cabinet d'Ornano, qui est cette espèce de coopérative juridique fondée par Georges Pinet et Henri Leclerc en 72, on est toujours exactement dans la même période, sur les débuts du mouvement d'action judiciaire, par exemple. Alors, dans ce livre, Le ghetto judiciaire, Boucher souligne Foucault, insiste justement, non pas sur les affaires qui font qu'on parle en général de la justice, mais sur le fonctionnement quotidien et concret de la justice, notamment dans ces désajustements, ces désordres, ces rouages impossibles, nous dit Foucault. Il ne dit pas injustice. Et c'est là qu'il va parler du lait et du citron, donc je vais reprendre, mais en version plus longue, pour inclure la partie qui concerne la syndicat de la magistrature, le passage final. Et je vais bientôt en finir, je ne sais pas. Donc je cite Foucault, ça permet de gagner du temps quand on n'est pas très spécialiste. On ne peut pas dissocier le livre de Philippe Boucher d'un phénomène récent dont lui-même souligne l'importance. Pour la première fois depuis que les parlements d'Ancien Régime ont été dissous, les magistrats se sont réunis en 68. Ce fut le syndicat de la magistrature. Bon, entre parenthèses, ils réunissent une minorité, hein, quand même à l'époque. On ne peut pas dire que ce soit tous les magistrats. Environ 20% quand même en quelques années. Et cette réunion a eu aussi bien pour origine que pour conséquence un réveil en forme de question. Qu'est-ce donc que nous sommes et qu'est-ce qu'on nous fait faire, nous qui sommes par principe destinés à appliquer la loi, tandis qu'on nous pousse insidieusement et qu'on nous demande même à haute voix de produire de l'ordre social. Alors c'est reformulé à la Foucault, par Foucault, mais c'est assez vrai sur la réflexion qui s'est développée dans le SM à l'époque. On a beaucoup dit, continue Foucault, que le syndicat de la magistrature voulait politiser l'administration de la justice. Je serais plutôt porté à penser le contraire. il a voulu poser la question de la loi à une certaine politique de la justice qui était celle de l'ordre. Et il a montré quels effets de perturbation la loi pouvait produire dans cette politique. Donc c'est exactement cette même idée qu'il y a dans cette petite annotation de la société punitive, selon laquelle demander l'application de la loi est juste la loi, ça peut aller contre le pouvoir et non pas le renforcer, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et donc, suivant ensuite cette citation sur law and order et sur leur caractère inconciliable. Je vais la citer quand même. Alors, retour au juridisme, il pose la question, est-ce que cet appel à la loi contre le politique, c'est un retour au juridisme? Et il répond, on n'en est pas là, il ne faut pas y aller, mais il faut affronter ce qui est à l'origine sans doute de la crise actuelle de la justice, et pas seulement en France. Contrairement à ce que le 18e et le 19e siècle avaient pu espérer, l'architecture du droit ne peut pas être en même temps une mécanique de l'ordre. Law and order, ce n'est pas simplement la devise du conservatisme américain, c'est un monstre par hybridation. Et il ajoute, ceux qui se battent pour les droits de l'homme le savent bien. Quant à ceux qui l'oublient, le livre de Philippe Boucher le leur rappellera, comme on dit lait ou citron, il faut dire la loi ou l'ordre, à nous de tirer de cette incompatibilité les leçons pour l'avenir. Donc là, on trouve, je trouve, dans ce passage, dans ce texte, une mise en exergue du rôle du droit chez Foucault qui est plus forte, je crois, qu'elle n'est faite par un certain nombre de penseurs, notamment américains, qui ont justement cherché ça chez Foucault sans vraiment le trouver, sans doute, parce que Milk and Lemon ne s'était pas traduit, mais qu'on retrouve un peu comme appelé, notamment dans cet ouvrage qui est intéressant de Golder et Fitzpatrick, Foucault's Law, dans lequel ils en appellent à une relecture justement ouverte sur les mobilisations de Foucault à la fin. On y trouve quelque chose de très vrai, c'est-à-dire une relecture dans ces deux formulations, des mobilisations du syndicat de la magistrature, mais aussi de ces autres organisations de juristes à l'époque, qui ont pris conscience, à peu près au même moment, et en lien les unes avec les autres, de cette force du droit retournée contre l'État, du légalisme contre les interprétations biaisées prétendument neutres, du recours au positivisme, comme défense des plus faibles et comme bouclier contre l'État, comme le dira le juriste américain Rick Abel des années plus tard. Le droit comme arme contre les forces de l'ordre et la légalité comme possible tactique de subversion, voici une alternative à la lecture réductrice de l'équation justice et punition chez Foucault, qu'on voit bien, je trouve, à partir de ces quelques éléments que j'ai essayé de retracer.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lyra Israël, pour cet exposé, cette remise en contexte extrêmement éclairante de cette formule effectivement très sibylline et très surprenante, d'autant plus surprenante qu'elle est tirée du manuscrit simplement et que Foucault n'a pas choisi en tout cas de la développer pleinement dans ce cours. Et c'est vrai que la lisant, à la fois, on est frappé, bien sûr, du caractère paradoxal, comme Foucault lui-même le souligne, de cette affirmation paradoxale, parce que venant de lui, bien sûr, et en même temps relativement énigmatique, puisque cela semble en fait aller dans le sens d'une sorte de retour, de réhabilitation du légalisme, du positivisme juridique, etc. Une sorte de retour à Hobbes, je dirais. Voilà, c'est pas du tout un retour à Hobbes. Là, la façon dont vous avez remis cet énoncé dans son contexte, son contexte d'énonciation et son contexte politique, me paraît tout à fait remarquablement éclairante. Alors, et par ailleurs, non seulement vous éclairez cette formule, mais vous apportez vraiment quelque chose, je crois, d'intéressant par rapport à cette critique assez monotone que l'on a entendue se répéter depuis des années, selon laquelle vous l'avez rappelé. Double critique de l'oubli du droit ou d'une concentration, enfin d'une mise, l'accentuation uniquement de la dimension répressive du droit, et vous allez plus loin effectivement que l'effort de relecture de ou de réhabilitation que propose notamment les deux auteurs que vous avez cités dans ce petit livre, où il voit dans l'approche que fait Foucault une approche effectivement critique du droit, mais il ne va pas jusqu'à dire que le droit lui-même peut être utilisé comme un instrument de contestation de l'ordre. Cette disjonction, le fait de retourner le droit contre l'ordre, cette dissociation du principe de law contre l'ordre, ça me paraît vraiment tout à fait passionnant et important. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Oui, pardon. J'ai déjà parlé ce matin, donc peut-être des gens...
Mais trop tard, allez-y. Allez-y. Mais bref, brièvement. L'exposé ayant été...
C'est quand j'y écris. C'est 70.
Qu'est-ce qu'on... 184.
C'est la page
2.
184.
Le passage qui est, c'est à la page 184 où il écrit, et dans le manuscrit où il y a cette phrase, je crois qu'il faut le mettre en rapport particulièrement avec l'entretien que Guy Casadamon, avec lequel il a commencé en 83. Et je ne me rappelle pas du nom en français, en anglais, c'est What Calls for Punishment. Mm-hmm. C'est quoi? C'est très utile. En 83, où il se pose cette question de...
Qu'appelle-t-on punir?
Qu'appelle-t-on punir? Mm-hmm. C'est, ok. Donc, parce que c'est particulièrement dans ce texte, je pense qu'il y a une lecture possible, mais je crois mal avisée, qu'il y a un certain retour à un légalisme beccarien presque. Et donc on voit ici que c'est pas ça du tout. Mais donc ça pose la question de en quelle direction aller, hein, parce que bien sûr c'est ni la pénalité beccarienne ni la criminologie. Où s'en aller? Et je crois que dans le dernier paragraphe de l'entretien, qu'est-ce qu'il y a, What Calls for Punishment, de 83, on peut lire vraiment la direction, une direction. Et ça faisait un peu partie de votre intervention, Guy. Mais c'est donc une direction, je pense, où c'est une question de... Une fois qu'on a compris la thèse de la société punitive, la punition comme forme sociale, je crois que c'est la direction de penser au droit pénal comme étant quelque chose d'une forme sociale, qui a donc ses effets, et de les adresser. Voilà. Donc je crois que de mettre les deux textes en dialogue, c'est très utile.
Une autre...
Oui, d'abord je voudrais te remercier, Laura, parce que ce que tu dis est passionnant. J'ai l'impression qu'on a parfois du mal à se comprendre, et c'est sans doute parce que quand on utilise le mot droit, ça brasse vraiment trop. Et je pense qu'il est effectivement pas très intéressant de dire que Foucault a oublié le droit, il en parle tout le temps à longueur de journée. Pas très intéressant non plus de dire qu'il n'y a rien compris. En revanche, moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre l'usage qu'on peut en faire. Par exemple, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est faire jouer la loi contre l'ordre. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est l'application stricte du code. Et alors j'entends que c'est une idéologie, on peut la faire remonter à Beccari, on peut la faire remonter à plein de gens, elle remonte sans aucun doute au projet des Lumières. Le syllogisme judiciaire chez Kant, ça marche très bien. Je crois aussi que tous les gens qui ont un peu l'expérience de ce qui se passe dans la vie du droit savent bien que d'une norme générale, on ne déduit pas le cas. C'est jamais comme ça que ça se passe, que c'est beaucoup plus compliqué et que ça exige donc des masses de dispositifs techniques distincts pour réussir à arriver à ce résultat-là. Et donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a quelque chose dans l'ignorance de ces dispositifs techniques qui pose un problème. Et c'est sans doute lié à notre formation à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation juridique générale, et pourtant, tout le monde est confronté au droit tout le temps dans notre société, mais on ne sait pas très bien comment ça marche, et c'est très dommage, et ça empêche de penser. C'est ça que je voulais dire ce matin, hein. C'est-à-dire, je pense juste que ça fait un peu boîte noire, qu'on a du mal à mesurer tous les effets que produisent ces dispositifs. Ce que dit Bernard, là, c'est difficile à évaluer les effets, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien de quoi on parle, on ne sait pas très bien ce que font les juristes. Et Foucault, autant qu'un autre, parce que si Foucault écrit qu'il faut revenir à l'application stricte du code, c'est qu'il n'a aucune idée de ce que font les juristes, parce que les juristes... Alors, c'est vrai aussi, et ça, c'est intéressant, que c'est l'image que le droit donne de lui-même. C'est-à-dire, la dogmatique juridique, elle a pour but... De faire croire, de donner à penser, de rationaliser le droit comme une application de la loi, comme une déduction des principes, comme etc. Particulièrement en France, où la dogmatique juridique est le mode ordinaire de la pensée juridique. Et je crois que tout le monde est pris au rêve de ça, c'est-à-dire les juristes qui pensent soit qu'ils font de la dogmatique, soit qu'ils ne font que de la pure technique, et les philosophes, les social scientists, je ne sais pas comment dire ça en français. Qui au fond accrédite cette idée-là sans voir, et c'est ce qui me paraît le plus important, que dans cet océan de micro-dispositifs, etc., là il se passe tout un tas de choses qui sont passionnantes et pour lesquelles Foucault est très important. Il y a toute la microphysique du pouvoir, et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de critiquer Foucault en disant qu'il n'a pas compris le droit. Foucault offre des outils d'analyse pour penser ce que font les juristes qui sont absolument formidables. C'est-à-dire, analyser tout ce fatras comme une microphysique des pouvoirs, c'est passionnant. Analyser tout ce fatras comme des dispositifs, c'est absolument passionnant. Mais pour ça, il faut comprendre où ça se produit.
C'est-à-dire qu'il faut prendre un exemple.
Je vous en donne un.
Oui, mais alors c'est difficile. Parce que
c'est l'exemple, c'est toujours difficile.
Je vous en donne un. J'ai discuté hier avec un ami qui est arbitre. Et alors, il me raconte son arbitrage. Alors, pardonnez-moi, je vais rentrer dans les choses techniques.
Ne demandez pas pardon.
Voilà. Non, mais alors, voilà, c'est des histoires de résolution de contrats. C'est-à-dire, c'est des histoires de contrats qui ont été arrêtés avant que, etc. Les arbitres arrivent tous avec une assez bonne compréhension du fond juridique. Il y a eu résolution de contrat, on voit très bien qui a juridiquement raison, qui n'a pas juridiquement raison. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça leur problème, parce qu'ils sentent qu'il y a de la mauvaise foi de la part d'une partie. Donc, ils ont déjà préalablement décidé de trancher le cas en allouant 50-50. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, là, il y a une première chose qui apparaît, c'est qu'ils n'appliquent pas du tout le droit. Ils le connaissent, ils formulent leurs arguments en termes juridiques, ils savent à peu près... quels sont les enjeux juridiques, mais c'est pas ça qui va se jouer. Ce qui se joue, c'est il y a de la mauvaise foi, il y en a un qui a essayé de truander l'autre, on va faire 50-50. Et là, ils ont un problème. Ils ont un problème, c'est qu'il va falloir construire la décision juridique. Et là, ils essayent de construire la décision juridique et ils ont des difficultés, parce que en remontant de l'amont vers l'aval, ils n'arrivent pas à construire l'argument juridique pour des raisons techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais pour faire court, s'ils se mettent sur le terrain de la résolution de contrat, alors ils savent que les avocats du méchant vont exciper d'un autre argument et que ça va finir en justice et que ça n'ira pas, parce que d'ailleurs en plus il finira par gagner parce qu'il aura raison. Donc ils doivent trouver un argument qui fasse deux pierres deux coups. À la fin du week-end, ils y arrivent. Parce qu'il y en a un qui a passé son week-end dessus, etc. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il y a un ensemble de... Il y a un ensemble de plein de trucs, c'est vachement compliqué, il y a des règles, il y a des intérêts, il y a de la politique. Le méchant est un très méchant. Et donc les arbitres ici... Pardon ? Non, c'est pas tapis, c'est de la grande distribution contre un pauvre petit, marchand qui a fait une franchise et qui... voilà. Alors on a très envie de taper sur le méchant et les arbitres sont des gentils. En l'espèce, hein, parce qu'ils pourraient être très méchants, ils pourraient énormer. Alors là, ils sont gentils. Et donc tout ça, ça dit quoi ? Ça dit que l'arbitre, ça dépend s'il est gentil ou s'il est méchant. Il y a les valeurs de l'arbitre qui rentrent là-dedans. Ça dit qu'il y a de la politique, parce qu'il y a un gentil, il y a un méchant qui est aussi politiquement gentil, politiquement méchant. Ça dit qu'il y a des questions de morale, la bonne foi, c'est de la morale. Ça dit qu'il y a des arguments techniques, bien sûr. Ça dit que tout ça joue à tous les niveaux, tout le temps. Donc c'est pour ça que quand on me dit qu'il y a de l'exception, il y a de la suspension du droit, c'est le souverain Schmitt à Gamben. Non, c'est pas au niveau de la souveraineté, c'est pas tout là-haut, c'est tout le temps partout, de manière complètement diffuse, disséminée dans tout le système juridique, à toutes les micro-décisions de ce que chaque juriste fait quotidiennement. Et ensuite, il y a une question de temps, de talent. S'ils n'avaient pas eu le temps, ils se seraient dit, bon, bah, c'est plié, on n'a pas trouvé l'argument juridique, tant pis, c'est le méchant qui va gagner. On n'a pas réussi à construire notre argumentation. Mais il se trouve qu'il y en avait un qui était un tout petit peu plus talentueux, qui a passé un tout petit peu plus de temps, qui était un tout petit peu plus énervé contre le méchant, qui fait qu'il a trouvé le moyen de construire son argument avec sa pierre à deux coups. Il a rappelé les autres arbitres le dimanche après-midi. Ils ont rédigé la sentence, voilà, et c'est fini. Oui, mais c'est difficile à expliquer. Oui, mais ça, c'est un champ de l'astrophysique du pouvoir. Non,
c'est remarquablement intéressant, mais malgré tout, il faut, la règle du jeu est qu'il faut laisser le temps à...
Si l'un a tort et qu'on est obligé de faire 50-50, c'est qu'il y a une chose unique, importante, que vous n'avez pas dit. Ah ben ça, je ne sais pas, c'est vous qui apportez l'affaire. Il n'y a pas de raison, s'il y en a un qui a tort, qu'on fasse un 50-50. Il y a autre chose, par conséquent, qui est plus fort.
Il y en a un qui a le droit pour lui, mais il est méchant. C'est ça, en fait.
Je ne sais pas ce que c'est. Bah, ça.
Tout ça se fait à la lisière du droit, puisqu'ils ne veulent pas aller en justice. Non,
pardonnez-moi, ça, c'est le droit. Ça, c'est complètement le droit, tout le temps. Oui, mais c'est pareil.
Mais c'est une façon vachement paradoxale de présenter le droit, parce que tu nous dis qu'il a le droit pour lui. Donc ça, c'est le droit strict. Et puis, il y a une pratique du droit où on va à l'encontre du droit qu'il a pour lui. Donc, tu dis la même chose que pour vous. Il y a les illégalismes. Et ensuite,
que ceux qui voient de quoi je parle.
Non, mais on s'adresse à tous. On s'adresse à tous.
Je crois que la phrase de Foucault... pose la question, retour au juridisme, on n'en est pas là et il ne faut pas y aller, donc il ne dit pas du tout qu'il faut faire ça. Après, il parle d'un moment où l'application stricte du droit ou non du droit et la lettre du droit, elle ne s'appliquait pas pour certaines personnes, elle ne s'appliquait pas pour les immigrés, et donc le Logisti est venu et a dit, bah, un bidonville, est-ce que c'est une propriété privée? Si c'est une propriété privée, les flics, ils n'ont pas le droit de rentrer. Est-ce que les marchands de sommeil, c'est la législation sur les hôtels? Et donc ils ont posé des questions de droit à des situations dans lesquelles le droit ne s'appliquait pas. Deuxième exemple, et c'est, tout ça c'est des exemples qu'il connaît, qu'il fréquente à l'époque, le syndicat de la magistrature, on s'attend, les magistrats ils jugeaient, mais ils jugeaient quand même à l'époque, et c'est encore le cas, pas de façon totalement indépendante des pouvoirs. Et le syndicat de la magistrature, qu'est-ce qu'il fait? Ses juges, ils disent, ben voilà, moi j'applique le droit, donc il y a un accident dans une usine, il y a un ouvrier qui meurt à cause d'un accident, et ben je mets le patron de l'usine en détention préventive, pour avoir causé la mort de l'ouvrier, pour être responsable. Et ça, c'est quelque chose qui fait scandale, parce qu'on ne mettait pas les patrons d'usine, en prison à l'époque pour la mort d'un ouvrier. Le troisième exemple, toujours l'application du droit strict, et jouer sur les ressources qui existent pour l'appliquer là où on ne l'attendait pas, parce que c'est ça dont il parle. C'est aussi le cabinet d'Ornano dont je parlais, c'est-à-dire qu'en 71, on crée une loi pour créer des SCI, c'est-à-dire des cabinets collectifs qui sont censés être pour les avocats d'affaires. Et là, Henri Leclerc et Georges Pinet disent, eh ben, très bien, on va s'en servir, on va faire une coopérative. On va faire l'inverse de ce qui était attendu. Mais on prend le dispositif, hein. On prend le dispositif, mais on ne va pas l'utiliser dans le sens qui était attendu par le pouvoir. Et c'est là où il y a une tension entre ordre et pouvoir. Et ce n'est pas un fantasme sur le fait que le droit n'existe pas, parce que toutes ces mobilisations, elles sont faites par des juristes, et exactement dans ces termes, et exactement en discussion très concrète, j'essaie de le montrer avec Foucault. Donc je ne crois pas du tout qu'il fantasme et qu'il ne sait pas ce qui se passe, puisque c'est avec ces juristes-là, qui ne sont pas des arbitres en droit international, ni en droit commercial, mais qui sont quand même des vrais juristes, Henri Leclerc, je pense que c'est quand même un juriste assez vrai, et que voilà, ça se fait comme ça. Donc tu ne peux pas dire, enfin, de manière générale peut-être en théorie du droit, mais là il s'appuie sur des choses qui sont dans son environnement immédiat et qui sont des pratiques du droit de juriste.
Merci. La discussion est passionnante, mais le principe d'équité veut que je laisse le temps de parole à ceux qui doivent encore intervenir, ceux qui ont déjà parlé. Et donc, vous donnez la parole à Fabien Jobard.
Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement chercheur au CNRS dans un centre de recherche de sociologie du droit pénal. Et c'est essentiellement donc de sociologie pénale que je vais vous entretenir aujourd'hui. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup goûté la discussion de ce matin sur le rapport entre droit pénal et droit civil. Je vais néanmoins revenir à la stricte pénalité telle qu'elle est exposée par Michel Foucault, vous m'entendez ? Oui, ça marche. Dans les cours, elle est exposée dans ses cours de manière tout à fait lapidaire et mystérieuse. Elle est exposée ainsi. L'important pour une analyse de la pénalité, c'est de voir que le pouvoir, ce n'est pas ce qui supprime la guerre civile, mais ce qui la mène et la continue. Et s'il est vrai que la guerre extérieure est le prolongement de la politique, il faut dire réciproquement que la politique est la continuation de la guerre civile. Et Michel Tsefaras a dit ce matin que cette intervention de la guerre civile un beau matin du 10 janvier 1973 dans les cours de Michel Foucault tombait des mains. Et il est vrai que c'est une notion à laquelle il consacre ce cours. Il n'y revient plus jamais ensuite au cours de l'année. Néanmoins, c'est une notion que je vais essayer de prendre au sérieux pour les besoins de la discussion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'entend Michel Foucault par guerre civile? En fait, j'ai le sentiment qu'il veut faire un cours sur Hobbes, et notamment sur l'idée selon laquelle la guerre civile, chez Hobbes, est la guerre de tous contre tous. Et Michel Foucault nous dit, mais pas du tout, la guerre civile, ça n'est pas la guerre de tous contre tous, c'est toujours la guerre d'éléments collectifs contre d'autres éléments collectifs. Parenté, clientèle, religion, ethnie, communauté linguistique, classe, etc. Et il est plus précis dans l'introduction de son cours. Vous allez voir à quel point, effectivement, la discussion en droit civil introduite autour de Marx est légitime. Comment introduit-il son cours sur la guerre civile? Eh bien, en nous disant que une chose est claire avec le code d'instruction criminelle de 1808 et le code pénal de 1810. Une chose est claire, on est dans la guerre sociale. Non pas dans la guerre de tous contre tous, mais la guerre des riches contre les pauvres, des propriétaires contre ceux qui ne possèdent rien, des patrons contre les prolétaires. Alors, je dois dire que lorsqu'on dirige un centre de sociologie pénale et qu'on travaille à la pénalité, on découvre ça, on se dit, bah, alors en fait, on travaille sur la guerre civile, on essaye de se reprendre et de comprendre comment tout ça se passe. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux la conception selon laquelle la pénalité relève de la guerre civile? Bien sûr, on a tout un ensemble de métaphores ou d'images qui nous viennent, d'analogies qui nous viennent à l'idée. La guerre contre le terrorisme, la guerre contre l'immigration clandestine. Celles-ci, elles sont ambiguës parce qu'elles se jouent aux frontières. Il y en a une qui se joue à l'intérieur de l'espace national, c'est la guerre contre la drogue. War on Drugs, déclarée par le président Nixon, reprise, accentuée par tout un ensemble de dispositifs pénaux, justement, sous la présidence Reagan. Et, pour reprendre le vocabulaire de Michel Foucault, l'outil essentiel, la tactique essentielle de cette guerre-là, la guerre à la drogue, c'est l'emprisonnement. On peut poursuivre cette courbe, hein, j'ai pris une diapo qui s'arrête à 2000, mais on peut la poursuivre. Aujourd'hui, le taux de détention aux États-Unis est de 730 pour 100 000 habitants, soit 7,5 fois plus qu'en France, ou 7 fois plus qu'en France, soit 5 fois plus qu'en Angleterre et au Pays de Galles, qui ont le record en Europe occidentale. Et vous voyez que le recours massif à l'emprisonnement se fait en deux phases, à fin des années 60, mais surtout au milieu des années 80, l'application de cette disposition particulière qui veut que lorsque l'on détient un gramme de crack, on est autant puni, sanctionné, puni, hein, je ne parle pas des peines prévues, mais puni, sanctionné, que lorsqu'on détient 100 grammes de poudre de cocaïne. Là, évidemment, on retrouve la guerre sociale, ou peut-être la guerre raciale, parce que qui consomme le gramme de crack, c'est le noir, les quartiers pauvres. Qui consomme sa poudre de cocaïne, ce n'est pas le noir. C'est ce que l'auteur américain John Hagan appelle les crimes de rue contre les crimes de suite d'hôtel. Street crime versus street crime. Et puis il y a une deuxième tactique qui est une tactique collatérale à celle-ci, l'emprisonnement. Ben, c'est la guerre, précisément, ceux que cette même guerre vise. Et vous avez là une diapo qui met en évidence le taux d'homicide, c'est la courbe en haut, hein, en gros, le taux d'homicide chez les jeunes hommes noirs américains pendant l'épisode du crack, on atteint des taux tout à fait vertigineux. Essayons de réfléchir à cette guerre contre la drogue, c'est-à-dire dans le vocabulaire même dans lequel elle était posée par les exécutifs successifs aux États-Unis. On pourrait l'analyser comme cela. C'est ce que fait la critique radicale aux États-Unis, ou l'une des formes de critique radicale, s'il y en a plusieurs aux États-Unis, à ce propos. Cette guerre a été menée pour trouver, pour empêcher la constitution d'un front politique, le front politique entre pauvres blancs et pauvres noirs. Ce qui distinguera le pauvre blanc du pauvre noir, c'est précisément la distance à la criminalité, la distance à la drogue. Pourquoi mener une guerre à la drogue? C'est pour éviter l'alliance, toujours terrible, un spectre terrible sur l'histoire américaine, l'alliance entre pauvres blancs et pauvres noirs. Oui, il s'agit bel et bien, en première approche, d'une guerre sociale. Et la pénalité peut se comprendre en termes de guerre civile, c'est-à-dire en termes de guerre pour le pouvoir, de groupes particuliers contre d'autres groupes pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Toute pénalité est-elle guerre sociale? Alors voilà qui complexifie un peu les choses, surtout sur ma, si ma diapo n'apparaît pas. Toute pénalité est-elle guerre sociale? Trois remarques très rapides, parce qu'il ne me reste plus que trois minutes sur cette question-là. Bernard a promis que celui qui dirait qu'il n'a pas assez de temps paye à boire pour tout le monde, mais je dois dire que ma générosité là, a quand même des limites. En trois minutes, toute pénalité est-elle guerre sociale? La situation américaine est sans doute exceptionnelle à plein d'égards, je ne développe pas. Venons-en aux situations européennes. En Europe, les taux de détention ne sont pas les mêmes, les taux d'homicide n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on a aux États-Unis. Essayons de voir quelles sont les pratiques pénales en Europe. Je vous en donne un exemple. Ah ben ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Regardez, l'évolution des motifs de condamnation en France entre 1980 et 2013. C'est-à-dire, pourquoi condamne-t-on? Non pas à qui condamne-t-on, mais pour quel motif? À quoi condamne-t-on? Eh bien, en 1980, à l'époque que Liora a décrite, deux tiers des gens qui sont en prison le sont pour des atteintes à la propriété, en gros du vol. Aujourd'hui, ça n'est plus que un tiers. Et aujourd'hui, ce qui est réprimé, ce sont les atteintes des personnes les unes avec les autres, les unes contre les autres. En gros, la violence. Derrière cela, on punit donc le recours à la violence par les individus, les uns contre les autres. On punit aussi la drogue, hein. Drogue et immigration en vert, on punit quasiment pas ça au début des années 80. Il n'y a quasiment pas d'immigration là-dedans, dans la part de camembert verte, il n'y a que de la drogue. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, ouais, il me manque vraiment du temps, regarde ce que... Deuxième élément, et Pierrette Pancella en a parlé, l'a souligné ce matin, à quoi condamne-t-on? Alors, non plus pourquoi condamne-t-on, mais à quoi condamne-t-on? Ben, la pénalité augmente, hein, vous le savez, on condamne de plus en plus, surtout dans les années 2000, très bien, mais au moment où surveiller et punir sort, la proportion des peines d'emprisonnement qui sont prononcées dans l'éventail des peines prononcées est à peu près de 20%. Aujourd'hui, c'est pareil. En revanche, ce qui a considérablement cru, ce sont les alternatives à l'emprisonnement. Et c'est quoi les alternatives à l'emprisonnement? Ah, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce que Pierre a dit ce matin. Je ne pense pas que ce sont des peines pour VIP, mais c'est... c'est moi qui t'ai mal compris, pardonne-moi.
J'ai parlé de la régulation.
D'accord. Bon, enfin, il y a une dimension sociale là-dessus, donc on pourra reprendre tous les deux. Mais c'est effectivement, c'est quoi? C'est les injonctions de soins, les mesures thérapeutiques, les mesures de médiation, les sanctions réparation, évidemment les rappels à la loi, la forme la plus, la plus invisible de la pénalité. En gros, l'OPJ vous dit « Ah ben, c'est pas bien ce que tu as fait » avec le procureur au téléphone et ça s'arrête là. Alors, comment comprendre tout ça? Je m'accorde 30 secondes, je viens juste de dépasser mon temps. Il y a une vraie différence entre les États-Unis et l'Europe en ce qui concerne les pratiques pénales. Une dimension fondamentale en Europe, c'est l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie, la protection de la dignité. La dignité, voilà un mot qui ne relève pas de l'appareil pénal, de la pénalité, lorsque Foucault présente ses cours. La dignité, en tout cas pas en France. La dignité, l'intégrité du corps. Aujourd'hui, l'État a essentiellement le souci de la défense de l'intégrité de la protection du corps. Ça passe même par le fait qu'on met en prison aujourd'hui des gens pour homicide involontaire, hein, les accidents de la route, la pénalisation de ce que Jacques Chirac avait appelé la délinquance routière. 30% voire 40% des délits qui sont aujourd'hui jugés, ce sont des délits routiers. L'État donc est aujourd'hui un sujet qui est dépositaire d'un pouvoir qui se comprend comme un pouvoir visant la protection des uns contre les autres. Autrement dit, je pense que s'il est question de la pénalité dans son rapport à la guerre civile, je pense que cette notion-là, cette analogie, peut être effectivement utilisée sur des conjonctures particulières, dans des espaces pénaux particuliers. Je pense qu'elle ne vaut plus si l'on considère les transformations qui ont affecté la pénalité ces 30 dernières années, et notamment la protection qu'endosse l'État de la vie individuelle, de la dignité, de l'intégrité corporelle, parfois même contre ses propres agents, influence de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme enjoint les États à protéger les individus contre les abus du pouvoir. Voilà un exemple de law versus order, qui est d'importance, par exemple, pour la France, dont on se souvient qu'elle s'était fait condamner pour torture en 1999. Je vous remercie.
Vous êtes d'accord pour qu'on enchaîne tout de suite?
Oui,
qu'on
oui.
Les questions. Oui, vous êtes d'accord pour qu'on enchaîne tout de suite et qu'on regroupe les questions?
Ça
sera sur le thème.
Bien. Okay. Attends,
comme nous avons...
Une ou deux questions.
Vas-y.
Pardon.
Comme nous avons pris...
Une ou deux questions, peut-être, s'il y a quelque chose. Mais...
Non, je préfère qu'on enchaîne tout de suite.
Oui, mais non, mais je vais vous montrer quelque chose d'autre.
Ah bon, d'accord. Alors, si c'est toi qui prends la responsabilité...
C'est ouais. Non, attends. Bon, juste pour aller avec, hier, je voulais juste, il y a un diapo qui m'intéresse en liaison exacte avec la dernière présentation, excusez-moi pour tout ça, mais, voilà. Après avoir servi son temps en tôle fédérale, John Ehrlichman, que vous connaissez, qui travaillait pour Nixon, dans des dimensions un peu, vous connaissez, a donné une interview à l'auteur qui dit que Ehrlichman a expliqué l'origine.
Bernard, je crois que personne ne connaît.
Ehrlichman?
Oui, tu peux y aller.
Well, he was one of Nixon's henchmen during the Watergate. During the Watergate, la campagne Nixon en 68 et la Maison Blanche Nixon après ça avaient deux ennemis. La gauche anti-war et les Noirs. Comprenez ce que je veux dire? On savait qu'on ne pouvait pas faire que ce soit illégal d'être contre la guerre ou contre les Noirs. Mais je veux dire, c'est exactement...
Le point commun, c'est la drogue.
Voilà. Oui, le point commun, c'est la drogue, et c'est comme ça que ça a été mis en liaison. Je veux dire, si ça, c'est pas une illustration incroyable de cette notion de la guerre civile, qui est mise en place en 73 là, dans ce cours, je ne sais pas.
C'est un texte qui ressemble beaucoup au genre de texte que Foucault cite, justement, où, regardez, c'est dans le discours, regardez, quand on raconte, on va faire la guerre aux pauvres, aux ouvriers parasites, c'est très parallèle.
Exactement. Mais, voilà. Je veux dire, voilà le discours, voilà ce qu'était le discours de John DiUlio, c'était un professeur à Princeton, ok, je veux dire, donc c'était un discours... très réputé, je veux dire, très bien respecté, même dans l'académie, etc. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Ils sont en train de parler des super predators, bien sûr, radically impulsive, brutally remorseless. C'est exactement le même langage, c'est exactement le même langage que Foucault était en train de retrouver dans les textes du 18e et du 19e. Il n'y a pas de... Attendez, donc... c'est pas différent. C'est pas différent que ça. C'est la même moralisation. C'est pas différent de ce passage-là aussi. Je veux dire, c'est l'utilisation d'une moralisation pour créer cette réalité. Bon, merci.
Merci pour cette... passionnante contribution là, sur la question de l'actualité du modèle de la guerre civile pour rendre compte de la pénalité, à la fois cette actualité et les limites de cette actualité. C'était vraiment très intéressant. Je propose que nous passions tout de suite au dernier exposé, parce que nous sommes déjà un petit peu en retard, de Sacha Raoult, qui est maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à Aix-Marseille Université et post-doctoral Mellon Fellow à l'université de Chicago, qui conduit actuellement des recherches sur la production sociale du savoir sur la récidive.
Alors oui, je vais parler de choses qui sont très proches, hein, on est un peu sur la même longueur d'onde tous les trois, et je vais faire la transition sur la guerre civile. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué en fait dans cet ouvrage. J'ai trouvé que c'est un ouvrage qui est violent, hein, qui est choquant quand même, comparé à Surveiller et punir, où quand je l'ai lu, c'était probablement davantage passé indirectement dans d'autres choses qu'on entendait à la faculté, et donc qui m'a moins étonné, alors que celui-là j'étais étonné. Et ce que dit Fabien là, sur la guerre civile dans la pénalité actuelle, il y a des exemples, il y a une quantité d'exemples qui font penser à ça. Dans d'autres choses, par exemple sur la France, on peut pas en penser, trois choses qui me sont venues comme ça. Il y a un, régulièrement l'appel à envoyer l'armée dans les cités, vous avez entendu ce truc là régulièrement. Il y a dans le discours, j'avais une étudiante qui avait travaillé sur les discours sur l'islam à l'Assemblée nationale, lorsqu'on parle du foulard et puis ensuite lorsqu'on parle de la burqa, c'est un discours qui est militaire, hein, c'est-à-dire qu'on dit il y a des gens qui nous provoquent, qui veulent remettre en cause notre existence, et donc on crée autour d'un débat sur une loi pénale, il y a un discours vraiment militaire de réponse à une agression. Dernier volet, qui est vraiment, alors ça c'est vraiment ta spécialité, qui est sur l'outrage, rébellion et l'utilisation. Il y a un confort, hein, quand on discute avec des professionnels, avec des parquetiers, l'inconfort qu'ils ont envers les dossiers d'outrage, rébellion, qui sont le mécanisme d'une guerre entre deux groupes, si vous voulez, qui à la fin se cristallisent devant une juridiction et sont jugés très froidement comme une qualification pénale, etc. Donc ça c'est première chose, et je vais parler de choses qui sont assez proches, mais alors moi ma perspective elle ressemble un peu plus à mon point de départ, à celui qui était pris ce matin, qui était que c'est quoi le contraste entre secours et surveiller et punir. Et dans ma lecture, qui vaut ce qu'elle vaut, mais les deux choses qui m'ont marqué, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux petits volets dans surveiller et punir qui sont un peu des évidences, un peu des points de départ, alors que là, dans ce cours, Foucault passe son temps à vouloir les démontrer et à vouloir l'expliquer, et en utilisant, je trouve, plus de références que ce qu'il utilise d'habitude. Je trouve qu'il y a beaucoup de cours où Foucault, dans une leçon, en gros, il prend un ou deux exemples et il articule, il prend le temps de montrer pourquoi cet exemple veut dire beaucoup de choses et tout. Alors que là, il y a, pour quelques questions, il essaie de mitrailler sous le nombre de citations, de références, etc., pour montrer en quoi, eh bien, c'est un surdit, en quoi c'est quelque chose qui est constant et sous lequel on est enseveli. C'est deux choses. La première chose qui est une évidence dans Surveiller et punir et qui prend toute une leçon à démontrer dans la société punitive, c'est
le fait que la nouveauté de la prison, c'est quelque chose de problématique. La prison, c'est nouveau, et il faut parler de cette nouveauté de la prison. Or, surveiller et punir, c'est pas le point de départ qu'il présente dans l'ouvrage. Il présente à côté, d'ailleurs, lorsqu'il parle de l'ouvrage dans les interviews, mais dans l'ouvrage, ses points de départ, c'est pourquoi est-ce que les supplices ont disparu, pourquoi est-ce qu'on a cette horreur grandissante des supplices, et en même temps, ce vide qui est pris par la discipline. Alors que là, toute la leçon du 31 janvier 1973, va être consacré à dire « Regardez, la prison, c'est nouveau, et ce n'est pas, j'ai beaucoup aimé cette citation, ce n'est pas le couvent de l'âge industriel. Et nous ne sommes pas dans la simple continuité de... alors, attendez, je retrouve mon numéro 2, parce que moi, je me perds dans mes citations. Mais c'est entre page 88 et page 95 qu'on a ces passages-là. Et on a quelque chose de nouveau, quelque chose dont... Et un collègue a discuté ce matin. Le problème, pour lui, c'est que on a re-christianisé la prison. On a donné une profondeur à la prison, une profondeur historique qu'elle n'avait pas, du fait, donc il raconte avec les Quakers, comment est-ce que la religion entrée en prison lui a donné une sorte de grande dimension historique. Là, on a rattaché le pénitentiaire à la vieille pénitence, alors que pour lui, c'est pas du tout le cas, puisque au contraire, l'enfermement canonique était interdit à l'Église en 1629. Au contraire, cet enfermement monacal était pas du tout sur la même ligne. Ça, c'est la première chose. Et là, dans ma lecture personnelle, Foucault s'oppose à quelque chose qui est en suspens dans ces grandes théories sur l'histoire pénale, dans ces grandes synthèses sur l'histoire pénale, qui est notamment ce texte d'Émile Durkheim sur les deux lois de l'évolution pénale. Et dans ce texte, en fait, Durkheim raconte l'apparition de la prison en trois temps. Il dit d'abord, il y a la prison préventive du temps de l'Antiquité, ensuite il y a la prison répressive du temps chrétien Moyen-Âge, et ensuite il y a la prison généralisée, laïque, qui est notre période à nous. Une citation de Durkheim, par exemple, c'est « La prison prit tout son développement dans la société chrétienne et l'Église a pris très tôt l'habitude d'ordonner contre certains criminels la détention à temps et à vie. » Donc la rupture est là. Et Foucault, donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que dans ce texte, il prend soin de se démarquer de cette façon-là de voir la rupture avec l'enfermement, alors que dans « Surveiller et punir », c'est davantage un acquis, et c'est à partir de cet acquis qu'on va plus loin. La deuxième forme d'évidence dans Surveiller et punir, mais qui prend beaucoup de temps, et là cette fois beaucoup plus qu'une leçon, à démontrer dans la société punitive, c'est un peu ce dont on parle là, c'est la guerre aux pauvres. Voilà, la guerre aux pauvres et le système pénal comme une arme dans cette guerre des riches contre les pauvres. Et en fait, c'est intéressant parce que ce volet-là dans Surveiller et punir, c'est résumé dans un petit passage qui est juste après Damien et quelques paragraphes sur ça. C'est la référence à Ruche et Kirchheimer. Hein, donc, dans le premier chapitre de Surveiller et punir, je vous lis ce passage. Après donc avoir le supplice de Damien et quelques grandes réflexions de Foucault, il vous dit « Dans le grand livre de Ruche et Kirchheimer, donc, qui est Peine et structure sociale, je vous en parlerai deux minutes après. On peut retenir un certain nombre de repères essentiels. Se défaire d'abord de l'illusion que la pénalité est avant tout, sinon exclusivement, une manière de réprimer les délits, d'autres points sur Ruche et Kirchheimer. Et ensuite, dans cette ligne, Ruche et Kirchheimer ont mis en relation les différents régimes punitifs avec les systèmes de production où ils prennent leurs effets. Il y a sans doute bien des remarques à faire sur cette corrélation stricte, mais on peut sans doute retenir ce thème général que, dans nos sociétés, les systèmes punitifs sont à replacer dans une certaine économie politique du corps. » C'est-à-dire que là, c'est le point de départ. Là, c'est évident. Et Ruche et Kirchheimer, on peut pinailler sur les corrélations, on ne peut pas être d'accord avec telle voie ou telle voie qu'ils ont prise, c'est ça qu'il nous dit, mais le thème général que la répression doit être comprise pas dans le nexus, pas dans le lien avec le crime, mais dans le lien avec l'économie, c'est ça le thème sur lequel on doit partir pour comprendre la naissance de la prison. Et pourquoi le contraste avec le cours m'a frappé? C'est que dans le cours, donc chez Kirchheimer, on n'est pas cité, et je demandais, on discutait ce matin avec Daniel Defer, on ne sait pas en fait si Foucault l'avait lu ou pas lu à ce moment-là, s'il l'a découvert entre-temps ou si c'est quelque chose qui était connu avant, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que...
Je disais, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires en circulation.
Ouais. C'était un bouquin... Donc voilà, c'est une question qui...
Ah, en français, c'est traduit tard par Hartwig Sander aussi, René Lévy, ouais, au début des années 90. Ouais.
Et en fait, du coup, si vous voulez, au lieu de passer une page à dire voilà ce qu'ont apporté Eric Schreckersheimer, on peut suivre ou pas suivre telle ou telle piste, mais on comprend le thème que le pénal, c'est un outil de gestion économique et pas un outil de gestion du crime, à la place, on a des pages et des pages et une montagne de citations, et j'ai été choqué par la montagne de citations sur on va faire la guerre à la pauvreté, sur les classes ouvrières sont les classes à partir desquelles, dans lesquelles eh bien, se répand cette immoralité qui va être une proie sur notre fortune, sur le paysan, le paysan méchant. Alors, il y a, et donc tout ce, alors, attendez, voilà, deux que j'ai retenu, je ne sais pas si on les a cités pour aujourd'hui ou pas, je ne suis pas sûr. L'une qui est, alors, Wesley disait devant une de ses finales en 1763 que la classe la plus basse et la plus vile de la société va se saisir des gens inexpérimentés et leur extorquer leur argent. Et on a cette autre citation qui rappelle quelque chose qui a été dit sur les Auvergnats il n'y a pas très longtemps par un ministre. Toutefois, toutes les fois qu'une grande quantité d'ouvriers sera rassemblée dans un même lieu, il s'y trouvera nécessairement beaucoup de mauvais sujets qui, par la raison de leur réunion dans un moindre espace, seront portés de tramer et d'exécuter des complots. Et il y a cette masse vraiment de données que met Foucault pour montrer que, à quel point c'est on ne peut pas voir le pénal différemment qu'axé sur ça, et je trouve c'est intéressant que ce qui ne trouve plus que ce travail soit nécessaire ensuite, deux ans plus tard, que voilà, quel était le petit point sur ça. Alors, est-ce qu'il y a un dernier point que je voulais vous dire? Ouais, après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites aujourd'hui, maintenant, c'est le problème plus on passe tard. La dernière chose, peut-être, j'ai beaucoup apprécié, j'étends la première citation que tu as donnée ce matin sur, vous vous rappelez, la distinction, le discours bourgeois sur le pénal, qui est la distinction entre l'atteinte au droit et l'atteinte à la propriété. C'est-à-dire, nous, ce qu'on faisait, c'était peut-être illégal, mais c'était une atteinte au droit. Vous, ce que vous faites, c'est illégal et c'est une atteinte à la propriété. La propriété, c'est un droit naturel, c'est pas la même chose. Et il y a un passage qui est très intelligent, page 151, et je trouve qu'il est très subtil dans l'appréhension juridique, justement, sur l'échange entre la fraude et le vol. Ce que dit Foucault, c'est sous l'Ancien Régime, l'aristocratie, l'illégalisme aristocratique, c'est du vol, c'est de l'exaction, et on va chercher, on arrache les richesses aux gens, et pour se protéger de ce vol, la bourgeoisie et le peuple commettent des fraudes. Et ensuite, on passe à un autre système où cette fois, comme la fortune devient vulnérable et comme la fortune passe entre les mains de l'ouvrier, eh bien, l'illégalisme de l'ouvrier, c'est lui qui devient le vol, et l'illégalisme du bourgeois, lui, reste sur la fraude. Et donc c'est cette interversion de comment, qui est tout le truc, toute la problématique du droit, c'est comment est-ce qu'on arrive à traiter différemment des choses parce qu'on les a appelées différemment. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on arrive à dire non mais ce sont des situations différentes et du coup on va pouvoir leur appliquer des régimes différents, et ce passage, cet échange entre vol et fraude, voilà, je trouvais que c'était un passage très subtil et très intéressant. Allez, je m'arrête là parce qu'on a assez traîné.
Merci d'avoir fait très court, oui, mais en même temps très, très ciblé, très, très net, très clair, très articulé. Bon, c'était très intéressant, ce rapprochement entre le cours et le livre. La question finalement qu'on est conduit à se poser en vous écoutant, c'est de dire, mais est-ce qu'on pouvait vraiment comprendre, surveiller et punir en l'absence du cours? Ou est-ce que le cours n'est pas l'élément complément d'intelligibilité nécessaire pour enfin vraiment pouvoir lire, surveiller et punir? Ou bien est-ce qu'il y a des décalages tels entre, en même temps, le cours et le livre que finalement, ce n'est pas simplement les soubassements théoriques du livre qui sont mieux mis en évidence, mais en même temps un certain nombre de déplacements significatifs qu'il faudrait regarder de plus près. Ça, c'est une question évidemment dans laquelle on ne peut pas entrer, mais vous avez apporté quelques éléments de d'explication et de précision tout à fait utiles. Réaction ou
on peut reprendre la discussion sur ce thème en général, hein, sur la guerre civile, la guerre sociale. On peut reprendre ça qu'on a un peu interrompu. Oui.
Moi, je me demandais à votre intervention, la question qui est pénalité était une guerre sociale, une guerre civile, et vous montrez en deux points que non, finalement, non, parce que on protège maintenant les gens les uns contre les autres, et non parce qu'il y a comme des peines alternatives qui font qu'il n'y a plus cette espèce de séparation de la prison, une peine de ségrégation des prisons. Et je me demande si en fait, vous ne fermez pas des pistes de recherche en prouvant ça, en essayant de démontrer ça, alors que précisément le programme de Foucault, c'était de faire le contraire. Hein. Sachant qu'au moment où il publie Surveiller et punir, en même temps, il professe, il faut défendre la société, ou finalement la guerre civile est montrée comme la base de toute politique.
Effectivement, le thème de la guerre civile est en fait repris dans « Il faut défendre la société ». Donc voilà le cheminement intellectuel de quelqu'un qui jette une hypothèse, ne la développe pas tout à fait dans ses cours, ne s'y confonde plus, parce qu'il la développe en réalité, et tu viens de le dire, mais il ne s'y confonde plus en qualité d'hypothèse. Est-ce que je ferme des portes à la recherche ? Alors ça c'est une vraie accusation. J'espère pas. J'espère en ouvrir avec votre proposition. Mais je veux souligner que, au fond, je veux souligner les limites du recours à ce qui est pour moi des sciences sociales. Bon. À l'analogie ou à l'image. Je mets de manière tout à fait caricaturale, sans doute contestable, en opposition de production pénale. Ce que donne la pénalité aux États-Unis, ce que donne la pénalité dans un pays européen comme la France. Et j'insiste sur européen parce que je crois en un pouvoir effectif et de la Convention européenne des droits de l'homme et des juges européens en plus, hein, et non seulement à la CEDH mais à la CJC. Et je dis en effet, qu'est-ce qu'une guerre lorsque l'essentiel de ceux que la pénalité attrape sont des gens à qui l'on reproche d'avoir attenté à d'autres gens et non pas attenté précisément à la propriété. Qu'est-ce qu'une guerre dans laquelle on poursuit également et on condamne également des gens parce qu'ils posent un danger? Je pense que ici, je vise ici les infractions routières, enfin ce qu'on appelle les infractions routières, et la question de l'émergence du risque qui est travaillée à la même époque par Castel est une question qui me paraît nécessaire pour comprendre la pénalité, indispensable même. Elle n'est pas évoquée dans les cours, ni d'ailleurs dans Société surveiller et punir. Elle est absolument fondamentale. La pénalité, c'est d'ailleurs ce que tu as dit ce matin, la pénalité est un outil de prévision, de gestion des risques. Et là, il y a une transformation absolument fondamentale. Transformation à l'égard de laquelle l'analogie de guerre est pauvre, elle nuit plus qu'elle n'ouvre des perspectives de recherche pour le coup. Et puis, qu'est-ce qu'une pénalité dans laquelle la peine est toute relative? Il n'en reste pas moins, bien sûr, qu'en bas de mes deux pauvres histogrammes, on a une proportion restée inchangée depuis le milieu des années 70, qui est la proportion des détenus. Et qu'il y a en effet toujours et encore la prison. Et qu'il y a derrière la prison un système qui l'alimente. Et ce système qui l'alimente, c'est celui, je fais le lien là avec ce qui est vraiment intéressant dans le cours, le lien entre le pénitentiaire et le coercitif. Qu'est-ce qui alimente la prison ? Là-dessus, au CESDIP, on est assez bien travaillé sur ces histoires-là. C'est la police, essentiellement. Donc, on retrouve une dimension de criminalité de rue. On retrouve une dimension de lien entre, pour une partie très spécifique de la population, de lien très immédiat entre coercitif et pénitentiaire. Et d'ailleurs, c'est le sens du texte que j'avais fait avec Gilles Chantraine, qui a été rappelé ce matin, dans ce numéro de Vacarme de 2004. Où on avait republié la conférence de Montréal de Michel Foucault, dont il a été question. Alors, toute la question qui se pose, c'est de savoir ce qui se joue là, très exactement, dans cette région-là de l'espace social. Je pose comme hypothèse ici que ce n'est pas une question de guerre qui se joue, mais une question de discrétion de l'État, le pouvoir discrétionnaire de l'État, une question de souveraineté de l'État,
Prenez la Grande-Bretagne. De 1998 à 2011 en Grande-Bretagne, 333 personnes meurent dans les mains de la police, au cours d'interventions policières, dans les cellules de police, comme on appelle ça. Sur les 333 cas, seuls 3 ont donné lieu à poursuite, prosecution. Autrement dit, il existe une région de l'espace social dans laquelle, manifestement, les atteintes au corps, et les atteintes, l'atteinte la plus grave, celle qui conduit à la mort, n'est pas redevable de la même justice. Et donc là, il se joue quelque chose que je préfère appeler, que je préfère analyser en termes de souveraineté, en référence peut-être lointaine à Schmitt ou d'autres, qui conçoivent la souveraineté comme l'expression d'une décision qui ne trouve pas de contradiction. Lorsqu'il n'y a pas justice, il y a décision pure, si vous voulez. Je vais très vite dans cette affaire-là, mais il est clair que la dimension qu'il nous faut analyser ici, c'est bien une dimension, je suis peut-être un peu positiviste ici, mais une dimension quantitative. Y a-t-il un saut qualitatif lorsque 99,7% je crois des poursuites débouchent sur une peine d'emprisonnement dont on ne sait pas si elle sera exécutée ou pas? À partir de quand? Y a-t-il un effet de seuil? Est-ce que la notion de guerre sociale se comprend à partir d'un effet de seuil? Est-ce qu'elle se comprend à partir de notions qualitatives? Comment articuler le vaste océan de cette pénalité sans prison et ce résidu de la prison, tout en considérant que la prison ici et la prison là-bas n'est pas la même? Parce que la prison ici, là encore, le juge y pénètre. Et vous le savez bien, aujourd'hui, même pour les infractions disciplinaires en prison, eh bien, il y a du justiciable. Et effectivement, cet entretien avec Louis Joinet, et puis bon, le travail que tu as fait sur la mobilisation par le droit, l'importance du juge que souligne Foucault à la fin des années 70, c'est absolument fondamental. Et ça, ça fait le partage aussi entre les États-Unis et l'Europe.
Juste une chose pour boucler dessus.
Dernière
phrase. Hein. Juste l'appréhension du risque et du rôle de la peine dans le risque, elle n'est pas là, mais parce que là, c'est la période où Foucault identifie le travail sur le pouvoir disciplinaire, et juste après, en sécurité, territoire, population, oui. quand il parle de la troisième phase, il y a théorico-juridique, il y a disciplinaire, et il y a la sécurité. Et la sécurité, là, il reprend toutes ces questions-là, hein, sur l'appréhension du risque, etc. Donc je crois que c'est simplement.
Très bref. Comment? Moi je suis très bref, oui. J'adore ça. J'adore ça, c'est une passion. Au titre du penser contre soi-même, au lendemain de la volonté de savoir, la question est posée à Foucault: qui lutte contre qui? Et il a cette réponse qui est, je trouve, extraordinaire. Il dit: il n'y a pas deux sujets qui soient immédiatement donnés, qui seraient la bourgeoisie et le prolétariat. Tout le monde lutte contre tout le monde. Et il y a toujours quelque chose en nous qui lutte contre quelque chose en nous.
Bien, merci. On peut donc
c'est le mot de la fin.